RMC, Intégral Sport, spécial Tour de France, Christophe Cessieux.
Bonsoir à tous, toujours en direct du Mont-Semnoz au terme de la 20e étape du Tour de France. C'était la dernière étape de montagne et tout simplement la dernière étape du Tour de France car demain il s'agira surtout de se balader depuis le château de Versailles jusqu'aux Champs-Élysées avec un magnifique spectacle. Mais de course, non, rassurez-vous, il n'y en aura pas. La course s'est achevée ce soir ici au Mont-Semnoz avec la victoire de Quintana. On va évidemment revenir sur ce succès de Quintana. Aurait-il pu remporter le Tour dès cette année? On posera la question à Cyril, à Lucho et à Thierry Bourguignon. On s'intéressera également à Froome qui a montré des limites aujourd'hui. Ou alors, était-ce tout simplement du bluff? Enfin, est-ce la fin de Contador? Voilà les thèmes des débats, sans oublier l'étape de demain, donc cette dernière étape du Tour. Regrettez-vous l'époque où la dernière étape du Tour avait encore une valeur sportive? De tout cela, on en parle dans un instant, mais auparavant, c'est le journal des sports. La deuxième édition, toujours menée de tambour battant par Benoît Boutron et le drapeau colombien qui flotte ce soir au sommet du Semnoz.
Et oui, Christophe, Nairo Quintana qui a tout raflé aujourd'hui. Le maillot blanc a remporté l'avant-dernière étape de la grande boucle en solitaire devant Rodriguez et Froome. Le coureur Movistar qui s'est également assuré la deuxième place du général à tout juste 23 ans. Écoutez sa réaction à la descente du podium.
Ganar una etapa como esta, esta gente tan grande del ciclismo, tan importante,
être capable de remporter une étape comme celle-là, ça donne vraiment beaucoup de courage et à la fin ça m'amène beaucoup beaucoup de joie évidemment.
Nairo Quintana au micro de Pierre-Yves Leroux. AG2R de son côté a également vécu une belle journée. L'équipe de Vincent Lavenu qui compte dans ses rangs Romain Bardet, le meilleur français au général, grimpe à la deuxième place du classement par équipe. Un travail d'équipe justement récompensé comme le souligne Christophe Riblon.
Toute l'équipe on a fait un super tour. Aujourd'hui on avait à cœur d'aller chercher cette deuxième place au classement par équipe, donc voilà. Là, on a fait un beau truc. Je sais pas, on doit peut-être faire tous les trois dans les 15 premiers ou un truc comme ça, donc voilà, c'est génial.
Christophe Riblon toujours avec Pierre-Yves Leroux. Christopher Froome de son côté aura su contrôler tous ses rêvaux sur l'ensemble de ce Tour 2013. Le coureur Sky, deuxième l'an dernier, maillot jaune depuis le 6 juillet, compte plus de 5 minutes d'avance sur le deuxième Nairo Quintana. Le Britannique, né à Nairobi, a découvert le vélo en Afrique justement. Et David Kinja a été son tout premier entraîneur. Il a toujours gardé contact avec Froome et forcément, il est très fier de son petit protégé.
Il me rend fier. Beaucoup de gens ici l'ont connu quand il était jeune. Personne n'aurait imaginé qu'il puisse devenir un coureur professionnel. À l'époque, il était déjà quelqu'un de très humble et très facile à vivre.
Le podium du Tour de France qui est donc bouleversé avant la dernière étape. Christopher Froome, troisième aujourd'hui, conserve bien sûr le maillot jaune. Quintana, vainqueur de l'étape, s'empare de la deuxième place. Contador est éjecté du podium au profit de son compatriote Joaquim Rodriguez. Romain Bardet, le premier français, est 15e. Le patron du Castres Olympique s'en est allé. Pierre Fabre, président depuis 1987, est mort ce matin chez lui dans le Tarn des suites d'une longue maladie. Il était surtout le fondateur du laboratoire pharmaceutique à son nom qui emploie 10 000 salariés. Le monde du rugby qui est forcément très marqué par cette nouvelle. Laurent Labitte a entraîné 4 ans le Castres Olympique avec son compère Laurent Travers. Les deux hommes, aujourd'hui coach du Racing Métro, ont conduit le club au titre d'un champion de France la saison dernière. Labitte était forcément sous le choc après avoir appris la nouvelle.
C'est très bien que c'est quelqu'un qui a dissipé toujours les choses, ce qui a permis de créer, de monter l'empire qu'il a monté et la réussite professionnelle qu'il a eue, qui doit faire partie quand même sur ses 50 dernières années, une des plus grosses réussites professionnelles qu'un homme ait pu faire. Donc, je suis pas inquiet pour ça. Mais aujourd'hui, on se pose même pas ces questions-là. On est tous sous le choc de sa disparition. Pour ma part, qu'il est connu comme joueur et qu'il est connu comme entraîneur et qui fait partie des privilégiés qui ont été amenés à le rencontrer à titre privé, de partager des déjeuners avec lui. Et dans une vie, comme on dit souvent, on rencontre des gens qui vous marquent, des personnes extraordinaires. Et lui fait partie, bien sûr, pour moi, de ces personnes-là.
Laurent Labitte avec Luca Biosca en football. Les U19 sur la route des U20. Une semaine après le titre de champion du monde de leurs aînés, les joueurs de la génération 94-95 affrontent en ce moment la Géorgie. Premier match de poule de l'Euro en Lituanie. Et c'est compliqué pour l'instant pour les mini-bleus. 0-0 entre les deux équipes. Après 57 minutes de jeu, toujours en football, quelques matchs amicaux. Cet après-midi, Monaco a été battu 1-0 par Augsbourg. Et en ce moment, Lyon mène 2-0 à Gerland contre le Zhengbuk Hyundai. Et pendant ce temps-là, on va parler du mercato également sur RMC avec Arsenal qui va bombarder Liverpool.
RMC, le Mercato Show.
Le club londonien qui a transmis une offre de 46 millions d'euros à Liverpool pour recruter l'Uruguayen Luis Suarez, le joueur meilleur buteur des Reds la saison dernière, aurait donné son accord aux dirigeants des Gunners, mais Liverpool a fixé la clause de Suarez à 58 millions d'euros. Et puis autre info, Barcelone cherche un successeur à Tito Villanova. Le départ de l'entraîneur a été annoncé hier par Sandro Rosell. Villanova qui a fait une nouvelle rechute de son concert à une glande salivaire. Son successeur sera connu lundi. Trois noms se dégagent, Michael Laudrup, Ronald Koeman et Luis Enrique. Toutes les infos sont à retrouver sur le site rmcsport.fr. Et puis on va parler de golf désormais. Tiger Woods bien lancé au British Open, l'américain numéro 1 mondial est en tête avec Lee Westwood avant la dernière journée demain. L'américain qui vise une 15e victoire en Grand Chelem ce week-end, un 15e succès qui fuit Woods depuis 2008. Nicolas Paolorsi.
Ouais, il est sur le chemin de la rédemption, Tiger Woods. Premièrement, sportivement, il n'a plus gagné un majeur depuis 5 ans, mais il retrouve depuis quelques semaines son statut numéro 1 mondial. Il n'est qu'à un coup du leader, un niveau inespéré. Il était retombé au-delà de la 100e place mondiale il y a 2 ans. En plus de son niveau sur les greens, la renommée de Woods est en train de retrouver son éclat. Il y a 3 ans, il était pris dans un scandale extra-conjugal. On lui prête 13 liaisons alors qu'il est marié. Le numéro 1 mondial lâche 44 millions de dollars pour son divorce, perd ses principaux sponsors. Il est même obligé de faire ses excuses à la télévision américaine pour son comportement. Cette année, l'image de Tiger Woods s'est assainie. Il affiche sa relation avec la championne de ski, Lynn Seven. Rolex et Nike ont renoué des contacts avec le golfeur, avec cette campagne de pub, les victoires sont plus fortes que tout. S'il remporte son 15e majeur ce week-end, la légende de Tiger Woods est de nouveau en marche. Une histoire dont raffole l'Amérique.
Merci Nicolas Paolorsi. Allez, il est 19h15 sur AMC. On va retourner sur la route du Tour, en haut du Mont Semnoz. Christophe, je peux te dire que Thierry Bourguignon est à côté de moi. Il est chaud, tu vas pouvoir le chauffer un petit peu sur cette étape.
Oh, il est toujours très chaud, tu sais, Thierry Bourguignon, du haut du Mont Semnoz, où l'on aperçoit là-bas la Tour Eiffel, Cyril, non ? C'est la Tour Eiffel qu'on voit là-bas au loin ? Non, tu la vois pas. Non,
si
il
tu vois la Tour Eiffel de là-haut, c'est que vous avez forcé sur le bon pinard.
Non mais voilà, si on n'ouvre pas son micro, il va avoir du mal, Cyril. Non mais là, c'est même pas de sa faute.
Ça fait combien de temps qu'il fait
avec vous ? Non mais ce n'est pas de sa faute.
Non, c'est pas de ma faute.
Encore une fois, c'est la faute à Titi. Hein. Donc voilà, Titi aussi, il a mis ses mots.
C'est la faute à Titi.
Messieurs, bonsoir. C'était Lucho qui t'avait fait une peau de banane.
Messieurs, bonsoir. Donc, on est ravis de se retrouver pour l'avant-dernière fois. Demain, c'est la dernière étape. On va se quitter. Ça va être terrible. En tous les cas, on s'est régalé une nouvelle fois cet après-midi avec cette dernière étape de montagne et cette course de côte dans l'ascension du Semnoz. On va tout de suite se remettre dans la course. C'était tout à l'heure avec cette incroyable victoire de Nairo Quintana. Incroyable sang-froid en tous les cas montré par Quintana tout au long de la montée. Il ne s'est jamais affolé, il a laissé les autres travailler. Et au moment où Froome a attaqué, il est revenu dans sa roue.
Il a fait un trou énorme.
Il va remporter l'étape avec une belle marge. Et donc terminé deuxième de ce Tour de France, Quintana, jeune coureur colombien qui découvre le Tour de France. Il a tout juste 23 ans. C'est le digne héritier de Lucho Herrera, de Fabio Parra, qui avait enchanté le Tour de France dans les années 80. Alors que Rodriguez, à son tour, vient de lâcher Chris Froome. Chris Froome a raison, Cyril, de ne pas s'inquiéter. Ils ne sont pas dangereux pour classement général, ils ne lui reprendront pas le maillot jaune tout à l'heure.
Oui, mais tout simplement, il ne peut pas y aller.
Il peut pas y aller.
J'ai l'impression que c'est bien que le Tour se termine quand même pour Froome.
Avec la victoire de Nairo Quintana, 24 ans, coureur colombien de Bocaya, là-haut sur les hauts plateaux. Il y a les Kenyans en athlétisme et il y a les Colombiens dans le cyclisme. Nairo Quintana, premier Tour de France, maillot blanc de meilleur jeune qui va aller décrocher sa première victoire d'étape sur la plus grande course du monde. Lui qui sera deuxième du classement général à coup sûr, derrière Christopher Froome. Nairo Quintana, héritier de Fabio Parra, héritier de Lucho Herrera, et qui devrait nous régaler dans les années à venir. Il embrasse le ciel pour Nairo Quintana, victoire avec probablement une marge de sécurité largement suffisante sur Joaquin Rodriguez. C'est Christopher Froome qui va prendre la troisième place de l'étape.
Colombia aujourd'hui avec Quintana qui remporte donc l'étape. Joaquin Rodriguez en finit à son tour avec un retard de 18 secondes. Chris Froome va terminer lui aussi largué. Troisième position seulement pour Chris Froome. C'est la deuxième fois qu'on le voit légèrement en difficulté sur les routes de ce Tour de France. Il n'aurait pas fallu une quatrième semaine. 28 secondes de retard pour Chris Froome sur la ligne d'arrivée. Il remporte le Tour de France. C'est désormais officiel, mais le podium a changé. Valverde qui va en finir à son tour dans quelques instants. Voilà, c'était cet après-midi, on s'est un peu emballé évidemment, c'était la dernière occasion de s'emballer sur les routes de ce Tour de France, car demain, je vous le disais, ce sera étape de balade entre le château de Versailles et les Champs-Élysées. Mais c'est vrai qu'on s'est régalé cet après-midi parce qu'il s'est encore passé des choses. Décidément, dans ce Tour de France, il se passe des choses tous les jours. Et Quintana, qu'on attendait, qu'on voyait petit à petit se rapprocher de la victoire, a enfin mis la balle au fond aujourd'hui en remportant cette étape de prestige, en battant Rodriguez, en battant Froome. C'est un quadruplé aujourd'hui pour Quintana. C'est pas seulement la victoire d'étape, c'est non seulement la victoire d'étape, mais c'est aussi la deuxième place sur le podium des Champs-Élysées. C'est aussi le maillot blanc de meilleur jeune, dont on sait qu'il prédestine souvent ses vainqueurs à un maillot jaune dans les années qui suivent. C'est aussi, enfin, le maillot de meilleur grimpeur. Franchement, c'est avec Froome, c'est l'autre héros de ce Tour de France, Cyril.
Bien, il y a deux hommes sur ce Tour de France. Il y a Froome, bien sûr, qui va remporter le Tour de France, donc c'est quand même lui le grand vainqueur. Et puis il y a ce petit bonhomme colombien qui aujourd'hui a littéralement explosé sur cette dernière étape du Tour de France avec cette arrivée au sommet à Semnoz. Mais on l'a vu depuis le départ monter en puissance, et ce qu'il a démontré sur ce Tour de France et surtout sur cette dernière semaine, rappelez-vous la montée qu'il a réalisée dans l'Alpe d'Huez, eh bien on peut dire que c'est un futur vainqueur du Tour de France. C'est celui qui pourra mettre en difficulté cette puissante équipe Sky, qui a peut-être été un petit peu plus discrète sur ce Tour de France, moins puissante, mais il est vrai qu'elle n'avait pas ses Colombiens.
Et oui, Urán n'était pas là.
Rigoberto Urán n'était pas là, et Henao non plus. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, les Colombiens ont actuellement trois perles. Qui peuvent gagner le Tour de France, car les trois peuvent être des vainqueurs en puissance du Tour de France.
Incroyable.
Heureux
Colombien.
Depuis Herrera, les Colombiens faisaient un petit peu.
Parra aussi.
Mais surtout dans la victoire des Tours, c'était surtout Herrera. Ouais. À tel point que les journalistes colombiens n'étaient pas venus sur le Tour de France.
Ils sont arrivés avant-hier, il y a trois jours.
Ils sont arrivés
sans accréditation, sans caméra ou presque, alors que dans les années 80, ils étaient là, bien installés. On a entendu. Écoutez ça, c'était d'ailleurs, tout à l'heure, on l'a passé dans le direct, on va le réécouter. C'était l'ambiance qu'il règne donc à la télé colombienne lorsque notre ami Quintana remporte l'étape. Et évidemment, on va aussi entendre à nouveau les années 80 avec Lucho Herrera. Tiens, écoutez ça, c'est assez.
Ça va me rajeunir.
Y atención que Nairo, parcialmente, de manera extraoficial, es tercero en la general del Tour de Francia. Así que hace historia Nairo Quintana en Alpe de Bues. Un colombiano está consiguiendo meterse en el podio del Tour de Francia. De nuevo el ciclismo colombiano. En el 84, Lucho Herrera fue ganador de esta fracción.
Voilà, les radios reporters des années 80, les radios reporters colombiens qui nous régalaient évidemment sur les routes du Tour de France et qui se régalaient à commenter la victoire de Lucho Herrera en 84, je crois, à l'Alpe d'Huez.
Christophe, quand j'entends que tout à l'heure tu dis excusez-nous, on s'est un petit peu emballé.
Ah oui, mais par rapport aux Colombiens, on est des petits joueurs, des tout petits joueurs. Même Jeannot Reséga est un petit joueur à côté des commentateurs brésiliens de football. Mais voilà, en Europe, on n'a pas la même culture, mais c'est vrai que moi j'aimerais bien aller travailler en Colombie. Lucho, toi t'es pas Lucho Herrera, c'est Lucho Leblanc, lui aussi, grimpeur de renom. Est-ce que tu penses que Quintana aurait pu remporter le Tour de France dès cette année? Est-ce qu'il aurait pu inquiéter encore plus Froome qu'il ne l'a fait cette année, et notamment dans cette étape aujourd'hui?
Quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé ces trois derniers jours, peut-être, oui. S'ils avaient couru intelligemment dans la première étape pyrénéenne, s'il avait attaqué un peu plus tôt que prévu, sachant que Froome était complètement isolé pendant pratiquement 100 km, oui, il aurait pu inquiéter davantage Froome, et on aurait pu se poser la question de savoir si Quintana pouvait remporter le Tour cette année. Oui, mais bon, après on peut pas revenir en arrière, mais bon, il avait l'occasion peut-être de réduire un certain écart avec Froome et de l'inquiéter davantage.
Thierry, tu partages cette analyse. Il y a quand même 3 minutes 28, je crois, de différence entre Froome et Quintana lors du premier contre-la-montre au Mont-Saint-Michel, contre-la-montre qui était entièrement plat. Après, c'est vrai que en montagne, il s'est beaucoup mieux défendu Quintana, mais 3:28 sur combien, 32 km de contre-la-montre, c'est quand même beaucoup, hein, Thierry.
Ben, il faut vraiment qu'il travaille le chrono, mais en a-t-il la possibilité?
Il n'était pas mauvais quand il était jeune, je crois. Il a été champion de Colombie du contre-la-montre.
Oui, mais ça ne veut pas dire, c'est pas une référence. Champion de Colombie de chrono, à la rigueur, champion des grimpeurs de chrono. Des grimpeurs Colombie, ça veut dire quelque chose, c'est une référence, mais là, c'est une petite référence. Il n'est pas mauvais. Mais pour aller titiller les Froome, il y a encore beaucoup de marge. Ouais.
Donc pour toi, il n'aurait pas pu remporter le tour cette année.
Ah non, même
sans les erreurs tactiques de sa formation.
Tactique, il y a quoi? Il y a l'attaque un peu trop tôt dans les Pyrénées, mais
un peu trop tard dans la première étape pyrénéenne.
Un peu trop tôt dans les Pyrénées, un peu trop tôt.
Ah oui, il est parti trop tôt.
Il est parti dans le col de Payer. Eh oui. Il y avait Riblon. Oui,
il
y avait Riblon qui était seul en tête et il est sorti du peloton. Il est allé chercher.
Il est parti trop loin. Il a rattrapé tout le monde, mais après il a coincé un peu dans le dernier quand Froome et Richie Porte attaquaient. Pour moi, il y en a trois sur ce tour. Il y a Froome, Richie Porte et Quintana. Mm-hmm. Parce que Richie Porte,
Mais il a un rôle d'équipier. Il a fait un boulot énorme.
Oui, mais c'est un super équipier. Un super équipier l'année dernière, il s'appelait Froome.
Ouais. Donc tu penses que Richie Porte remportera le tour l'année prochaine?
J'irai pas jusque là. Ou alors si la Sky arrive à faire ça, la chapeau.
Ah là ouais. Trois années de suite avec trois leaders différents, ce serait énorme. Cyril, tu as étudié les chiffres tout à l'heure lorsqu'on a évoqué ce thème de débat. Quintana a quand même aurait pu passer peut-être pas la victoire, mais être beaucoup plus proche de Froome au classement général.
Oui, la victoire de Froome ne souffre d'aucune contestation et même pas celle de Quintana. Si Quintana avait effectivement pas fait certaines erreurs, ou son équipe a fait certaines erreurs sur la traversée des Pyrénées, rappelez-vous, on lance très tôt dans la montée du col de Payer, il fait toute la descente dans le vent, il se fait rejoindre au pied de la montée, il perd presque 1 minute 30 ou 1 minute 40. Ensuite, si on prend toutes les autres arrivées au sommet, il va plus vite. Il va plus vite que Froome. Et encore, on le fait partir à 14 km dans le Ventoux. C'est-à-dire que dans toutes les arrivées au sommet, si on avait eu confiance en lui, parce que je crois que le problème au niveau de l'équipe se situe là.
C'est-à-dire qu'on se demandait ce qu'il allait faire.
On avait plus confiance en Rui Costa et en Valverde pour le classement général que pour le Colombien.
Surtout Valverde, parce qu'ils ont sacrifié les deux. Hein.
Mm-hmm. Oui, ils ont sacrifié en plus les deux. Mais ils s'étaient rendu compte qu'il fallait garder Quintana dans l'étape de...
Ouais, c'était limite, ils auraient fait l'erreur suprême.
Quand on voit que dans toutes les arrivées au sommet, à chaque fois que Quintana a perdu du temps, c'est qu'il y a eu une faute de stratégie. Ouais. Mais c'est lié à ce manque de confiance qu'on pouvait légitimement avoir sur un coureur qui débute dans le Tour de France, qui a 23 ans. Et s'ils avaient au contraire cette confiance en lui et qu'ils avaient couru pour lui, eh bien Quintana serait vraisemblablement à moins de 3 minutes, à moins de 3 minutes de Froome.
Alexandre nous appelle au 32-16 pour évoquer le cas Quintana. Bonsoir Alexandre.
Oui, bonsoir messieurs.
Bon alors, Alexandre, tu penses que Quintana aurait pu inquiéter, aurait pu gagner le Tour de France dès cette année?
Ah, ben pour moi, Quintana, c'est la belle surprise de ce Tour. Et quand on écoutait les commentateurs en début de Tour qui disaient qu'il n'avait pas pris la bonne optique d'aller s'entraîner en Colombie, ils sont complètement gourés, déjà, un. Et deux, par rapport à une remarque qui a été faite sur la Colombie, être champion de contre-la-montre en Colombie, la Colombie est un pays dans lequel le vélo est très très structuré, il y a énormément d'écoles de cyclisme et être champion de Colombie déjà en contre-la-montre c'est déjà pas mal. Mm-hmm. Et je pense que ce garçon va encore progresser parce qu'il est jeune et tout dépend comment le tour va être dessiné l'année prochaine.
Oui, c'est ça aussi.
Mais c'est vrai qu'en contre-la-montre plat il a encore beaucoup de boulot pour rattraper l'anglais, mais concrètement pour moi c'est la belle surprise. C'est la belle surprise de ce tour. Et juste, j'espère qu'il y a une petite histoire qu'a raconté Laurent Fignon dans son bouquin sur les Colombiens dans le Tour de France, leur manière d'acheter des étapes. J'espère que ce ne sera plus le cas.
Ouais, on l'espère évidemment. Ouais. Merci Dominique pour cette petite anecdote de Laurent Fignon. C'est vrai, Cyril, ça, que les Colombiens achetaient les étapes dans les années 80?
C'était peut-être pas impossible.
Ah, c'était peut-être pas impossible.
Dans les
années 80, c'était un peu toi le druide en chef quand même du Tour de France.
Non, c'est depuis que je suis sur RMC, mon cher Christophe. D'ailleurs, c'est vous, mon cher Christophe. Je vais vous voyez maintenant, puisque c'est comme ça. C'est vous qui m'avez surnommé le druide, tout simplement parce qu'on avait traversé la forêt de Brocéliande.
Exactement. La forêt de Brocéliande, c'était il y a quelques années. Donc, Quintana, la grande et belle surprise de ce Tour de France, évidemment, nous continuons d'en parler tout au long des jours qui viennent. Il n'en a plus qu'une de journée. Ce sera demain, évidemment, pour cette dernière étape. Dans quelques instants, on va s'intéresser également à Chris Froome et à Contador.
RMC, Intégral Sport, spécial Tour de France, Christophe Cessieux.
Toujours en direct du Semnoz sur les hauteurs d'Annecy, le Semnoz où s'est jugé tout à l'heure l'arrivée de la 20e étape du Tour de France. Avant-dernière étape, dernière étape de montagne, dernière étape tout court, dernière étape sportive, évidemment. On en reparlera tout à l'heure de cette dernière étape de demain entre le château de Versailles et les Champs-Élysées. Une étape uniquement pour les photographes, pour les petits fours et pour le champagne. En attendant, nous revenons évidemment sur cette dernière étape de montagne. Nous avons évoqué le cas Quintana qui a réalisé le jackpot aujourd'hui, le quadruplé de Quintana. Étape, deuxième place sur le podium des Champs-Élysées, maillot de meilleur jeune et maillot de meilleur grimpeur. Il est le deuxième homme de ce Tour de France, deuxième homme derrière Chris Froome, qui va donc demain remporter le Tour de France. C'est désormais officiel ou quasiment. Cyril, on voit pas ce qui pourrait lui arriver. De toute façon, c'est une tradition. Maintenant, on fige quasiment le classement.
On ne peut pas souhaiter quoi que ce soit.
Ah mais non, mais évidemment que non. Il a gagné son Tour de France. En plus, on en parlera demain de la personnalité de ce Chris Froome. Mais franchement, je suis beaucoup plus content de voir ce garçon gagner le Tour de France cette année que l'autre Rosbif de l'an dernier, Bradley Wiggins. Insupportable bonhomme. Insupportable bonhomme.
Non, mais de toute façon, il est pas anglais de culture. Il est africain du Sud. Il est kenyan.
Un garçon bien élevé, un garçon attentif, un garçon. On dormait dans le même hôtel que lui la nuit dernière. Je l'ai croisé dans l'escalier hier soir. Il dit bonjour à tout le monde. Il signe des autographes. Il se laisse photographier avec les gamins. Il est dispo avec la presse. Il parle français alors qu'il le maîtrise pas parfaitement. Franchement, humainement, c'est un type parfait. J'espère que sportivement, il est parfait. Vous le savez, évidemment, les doutes ne sont pas complètement enlevés, comme ils ne sont jamais enlevés sur aucun coureur du Tour de France. Mais en tous les cas, humainement, c'est un mec bien. Et on est ravis pour lui qu'il puisse remporter ce Tour de France. Froome, qui malgré tout, aujourd'hui encore, a montré des limites. Hein. On a vu qu'il n'avait pas su répondre à l'attaque de Quintana. Alors, c'est la question, en fait. A-t-il montré des limites ou était-ce du bluff, Thierry? Je sens que tu bous d'impatience de nous livrer ton verdict.
Non, moi je ne l'ai pas trouvé vraiment limite. Et c'est lui qui a tout fait exploser quand même. Vous oubliez ça. Après, dernière attaque, c'est vrai qu'elle n'est pas exceptionnelle. Derrière, Quintana est parti. Et c'est vrai que je me pose la question à savoir si vraiment il voulait cette étape ou si il s'est dit bon ben Quintana c'est un bon mec et on va lui
Thierry, c'est pas la première fois quand même qu'il subit des contre-coups l'autre jour dans l'Alpe d'Huez.
Il y a eu
coup de fringale quand même.
Un léger coup de fringale, oui, mais ça reste un homme. Voilà. Vous avez oublié qu'il était un...
Mais c'est avant, il y avait des surhommes, maintenant il y a des hommes.
C'est pas lui, hein, c'est pas lui la machine. La machine qui n'avait aucune défaillance et qui ne risquait absolument rien. Là, on s'est aperçu que
c'est plutôt rassurant,
que
ça.
Froome, oui, on peut dire que c'est rassurant parce que quand il fait mauvais, quand il fait froid, qu'il s'alimente mal avec tous les efforts qu'il a dépensé, il arrive à craquer comme un autre, un autre.
Et en plus, lorsqu'il commet ses attaques, on l'a vu encore une fois aujourd'hui, comme lors de l'étape du Ventoux, il attaque très vite. Il sprint dans la montée, c'est toujours très impressionnant, Cyril. Mais ça dure pas longtemps et derrière il est obligé de respirer comme tout le monde. C'est un être humain, il faut respirer aussi à un moment donné quand on fait les efforts.
Je pense que ses adversaires vont également étudier sa façon de courir et sa façon surtout de grimper. Alors il fait partie de ces grimpeurs capables de faire des accélérations successives. Donc il faut pas réagir quand il attaque.
Il faut pas aller le chercher quand il part.
Surtout pas aller le chercher parce que là vous faites sauter le moteur quoi. Actuellement qui peut le suivre au moment d'une accélération, personne et même Quintana.
Même pas Quintana.
Quintana est... Alors, a remarqué qu'il n'a jamais répondu à une accélération. Il est, ce sont, et ça, c'est la culture des vrais grimpeurs colombiens.
Ils préfèrent venir au train.
Vous savez qu'en Colombie, est-ce que vous savez combien de kilomètres fait un col en Colombie en règle générale? C'est 40 bornes.
Oui, c'est le double de la Madeleine des grands cols des Alpes.
Et oui, moi j'ai fait avec l'équipe Renault, avec Laurent Fignon, avec Marc Madiot, avec Charlie Mottet.
Et puis ça monte plus haut. Ça monte plus haut qu'en Europe.
Oui, ça monte plus haut. Donc on se retrouvait là-bas avec des cols de 40 bornes. Des fois, vous les voyez, ils sont un petit peu en difficulté, ils se font larguer. Jamais ils accélèrent. Mais ils montent. Ce sont des métronomes. Et regardez, à chaque fois qu'il y a eu une attaque, il a regardé, tu te dis ça y est, mais il ne réagit pas. Mmh. Et puis vous regardez 30 secondes plus loin, progressivement il a accéléré. Et puis il revient
et l'école,
la pression.
Et l'école du Kenya, Cyril, tu les connais?
Alors, je ne connais pas l'école du Kenya. Bon, je sais qu'il y en a. Puisqu'il y a des montagnes.
Bien sûr.
Je sais qu'il y a des grands coureurs à pied qui viennent des hauts plateaux. Oui, non, enfin, il est clair que ces Colombiens, vous remarquerez d'ailleurs en règle générale, on voit rarement les Colombiens attaquer de façon violente. Ils accélèrent, ils vont éventuellement faire une accélération sur 200, 300 mètres. Enfin, ils vont élever leur rythme et puis après ils vont se remettre à un rythme normal pour eux. Puis ils vont remettre encore un petit peu de rythme supérieur au-dessus. Mais des accélérations, non. Ils sont tellement habitués à monter au train qu'ils sont pratiquement indécrochables. Et aujourd'hui, on a pu le voir, il n'y a même pas eu une véritable attaque de Quintana. C'est-à-dire qu'il y a eu Froome qui a accéléré, il est allé le chercher et puis il a maintenu le rythme et il est parti. Donc il faudra que Froome aussi remarque bien ça, mais je pense quand même que son staff a dû remarquer qu'il allait être dans l'obligation, compte tenu de la personnalité
et de la concurrence
qui arrive de Quintana. Il va falloir qu'ils adaptent aussi leur
Il y
a deux autres Colombiens dans l'équipe aussi de la Sky.
Il y a eu une différence aujourd'hui, c'est qu'il attaquait, mais il arrivait à se mettre en danseuse. Contrairement au Ventoux, où il est resté assis.
Il est resté assis.
Complètement.
Lucho, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, comme l'autre jour dans l'Alpe d'Huez, certains l'ont évoqué, c'était du bluff de la part de Chris Froome?
Non, c'est pas du bluff. Mais moi, je pense qu'il a un petit défaut, Chris Froome, c'est que, certes, ses attaques sont incisives, il fait la différence de suite, mais il n'arrive pas à tenir le rythme. Et là, on l'a vu aujourd'hui, je pense que son défaut, ça va lui rattraper l'année prochaine, parce que c'est pas évident qu'il puisse regagner encore un tour. Parce que les Colombiens, bon, notamment Quintana et son staff, se sont aperçus que certes, il faisait des accélérations tonitruantes, voilà, il prend 100 mètres en 50 mètres, mais à la limite, on s'en fout. Ce qui compte, c'est de faire la différence et de continuer sur le même rythme pour pouvoir creuser l'écart. Le problème, c'est que, comme le disait Cyril tout à l'heure, Quintana, il reste à son rythme, il accélère petit à petit, il revient sur Froome, et puis à un moment donné, quand Froome va se retrouver dans un col de 20-25 bornes, à faire ce qu'il est en train de faire, il peut le payer très très cher. Ouais. Donc il faut faire gaffe l'année prochaine avec Quintana, parce que ça sera un danger pour Froome.
Exactement,
dans
Olivier.
Dans l'analyse de cette année,
Olivier nous appelle les Alpes-Maritimes au 32-16. Bonsoir Olivier.
Bonsoir les gars.
Alors, limite pour Chris Froome, qu'est-ce que tu en dis?
Moi j'en dis que ce mec-là, j'ai l'impression qu'il roule à l'eau claire et qu'il est humain. C'est-à-dire qu'il a fait un super début de saison, il a fait un super Dauphiné, il a fait un bon Tour de France, mais là je crois qu'il est un peu cuit. Et même la dernière fois quand il a eu sa soi-disant fringale, je crois qu'il a fait passer ça pour une fringale, pour pas que les autres l'attaquent, sachant qu'il était peut-être affaibli. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi c'est ce que je pense.
Il faut qu'on précise un certain nombre de choses, peut-être que vous n'avez pas eu les informations, mais il n'avait plus de directeur sportif derrière lui depuis le sommet.
Il n'était vraiment pas alimenté, il n'avait plus rien à manger,
puisque la voiture était tout simplement en panne, et il a fallu que Nicolas Portal, son directeur sportif, attende la deuxième voiture pour changer de voiture, et en fait Nicolas Portal n'est revenu qu'à 4 km de... Il n'avait d'ailleurs même plus d'informations, puisque l'oreillette, il y a longtemps qu'elle ne fonctionnait pas, et c'est pour ça qu'il a appelé au moment quand il a senti la fringale arriver, parce que ça faisait quand même plus de 30 bornes qu'il avait été ni ravitaillé en liquide ni ravitaillé en solide.
Moi ça me paraît un peu gros, moi.
Qu'est-ce qui est un peu gros?
Ben, je sais pas, quand on a des équipiers autour de soi, on peut se faire passer une pâte de fruits ou un bidon, etc.
Mais
il n'y a plus aucun,
les portes n'avaient rien non plus.
Et il n'y avait que Richie Porte à ses côtés.
Ça m'étonne, je ne sais pas.
Ouais. Mais non, mais après, attends, je veux dire, les gars, ils n'avaient plus rien dans leur poche, quoi.
La voiture, et
Richie Porte, autant que Froome.
Non, non, faut pas voir le mal partout quand même.
Ah non, moi je vois pas le mal, au contraire, moi c'est tout à son honneur. Je pense que c'est quelqu'un qui est humain, je pense qu'il roule à l'eau claire et qu'il arrive vraiment, vraiment fatigué à la fin de ce tour. Quoi.
Ah, c'était évident. C'est sûr. Mais vous savez ce qui fatigue le plus? C'est la pression, c'est le pouvoir.
La
pression du maillot jaune, alors elle se traduit sur le vélo, bien sûr. Mais attendez, Froome, tous les soirs, il part une heure et demie après les autres, hein, d'ici. Hein.
Et là, il est parti il y a un quart d'heure seulement d'arrivée. Et il donnait sa dernière conférence de presse.
Alors, les contrôles antidopage auxquels il est obligé de se soumettre, et c'est tout à fait logique, tout le protocole des interviews, alors vous avez la télévision, bien sûr, ceux qui ont les droits, alors on va pas rentrer dans le détail. Ouais. Les télévisions n'ont pas les droits. Non, c'est encore autre chose. Après, vous avez les radios. Après, vous avez la presse écrite.
Et après, vous avez.
Et après, vous avez le contrôle auquel il faut passer.
Et après, il faut rentrer à l'hôtel, vous faire après, le massage, il faut manger, il faut se coucher.
Et en plus, c'est fait de l'entraîneur.
Il faut téléphoner à maman. Enfin, bref, il y a plein de choses à faire quand même.
En plus, entre les. Tout ce que vous avez annoncé, il fait de l'entraîneur.
Oui, récupérer. En plus. Ah bah oui, il fait.
Donc, c'est pour ça qu'il perd du temps pour arriver.
Ouais. Merci Olivier en tous les cas de cet appel. Donc Chris Froome qui est en train de conquérir le cœur du public français. Il y en a un en revanche qui aujourd'hui a tout perdu, c'est Alberto Contador. Il était deuxième ce matin sur le podium. Il était assuré de monter.
Ça va pas faire plaisir à Thierry, hein, je te l'avais dit Thierry. Mais non, hier tu me disais mais c'est
Contador a craqué Thierry.
Prévisible.
Il n'est plus sur le podium, il va terminer quatrième de ce tour. Au départ en Corse, il était donné comme co-favori avec Chris Froome, un petit peu en deçà de Chris Froome. Mais aujourd'hui il a tout perdu. Lui aussi finit le tour très fatigué.
Sauf pour moi, rappelez-vous.
Oui, c'est vrai. De toute façon, tu n'as jamais cru en Contador. Depuis très longtemps, tu nous le disais. Thierry, tu es déçu par la performance d'Alberto Contador?
Oui, déçu. Mais déjà hier, Lucho, on discutait de ça. Et dans les paris, j'avais mis Quintana. Donc en mettant Quintana devant, je savais qu'il pouvait. Et il y avait 21 secondes. 21 secondes, c'est rien du tout. Et là, on a vu que c'est limite. Parce que vraiment limite. À la rigueur, s'ils avaient joué la carte de son équipier
Kreuziger. Bah, c'était le premier à craquer aujourd'hui quand même, Kreuziger.
Hein, oui, mais à chaque fois, il revient, il fait du boulot et il se met à la planche. Franchement, je salue
c'est
tout
le Richie
travail.
C'est le Richie Porte de Contador.
Ah oui, exactement. Et il y a un deux là qui pourrait avoir la médaille des équipiers, c'est ces deux-là. Ouais. Franchement.
Sauf que Kreuziger est moins fort que Richie Porte et que Contador est aussi
moins fort que Froome. Oui.
Cyril, est-ce que c'est la fin d'Alberto Contador? Est-ce que tu penses qu'il regagnera un jour le Tour de France? On sait, on l'a entendu tout à l'heure, il a décidé de l'année prochaine de se concentrer uniquement sur le Tour de France. L'objectif 2014 sera le Tour et uniquement le Tour. Est-ce que...
Alors moi je me méfie, et c'est pas la première fois que je le dis, je me méfie toujours des déclarations. En plus c'est une déclaration à chaud quand il descend et que là il vient de perdre la place sur le podium. Attendez, laissez le Tour se passer, attendez du temps, que tout le monde analyse un petit peu, débrief de l'ensemble du Tour de France et puis on verra ce qui se passera. Personnellement, je pense que Contador ne gagnera plus jamais le Tour de France.
Très bien.
Il n'y a pas que toi.
Il n'y a pas que toi. Ouais, toi aussi.
Lucho,
tu
confirmes. Il est au bout d'une carrière,
oui, oui, non, mais ça, c'est clair et net.
Et Cadel Evans?
Parce que là, il fait peine.
Andy Schleck, le pauvre, il faut qu'il se remette en question.
Il y a une génération qui s'en va.
Andy Schleck n'est pas vieux, hein, attendez.
Une génération.
Il faut qu'il se remette en question.
Oui, en question, mais surtout au chrono et tout ça, et dans les descentes.
Très bien, on verra ça. On aura le temps d'en reparler. Merci à Olivier. On aura le temps d'en reparler demain, puisqu'on sera à l'antenne dès 17h et jusqu'à 22h pour la dernière étape du Tour de France.
RMC, Intégral Sport, spécial Tour de France. Christophe Cessieux.
La dernière étape du Tour de France, ce sera donc demain, 21e étape entre le château de Versailles et les Champs-Élysées. Là, c'est quand même du grand, du prestigieux. Au niveau sportif, bon, ça va pas être énorme, évidemment. On va en parler dans quelques instants avec Luc, avec Cyril. Et oui, et les Champs-Élysées qui arrivent. Les Champs-Élysées qui arrivent.
La, 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 la. Oh, Champs-Élysées.
Ah, ça, c'est l'époque de Cyril, donc ça le fait frétiller de partout. On accueille Benji, c'est l'heure des paris.
Les paris RMC. Tour de France.
On préférait les Champs-Élysées, mais c'est les paris qui sont là avec notre ami Benji. Bonsoir, monsieur Ramager.
Bonsoir, messieurs. Salut.
Alors Benji. Aujourd'hui, il y en a eu qui ont eu du nez, qui ont donné Quintana. Et qui ont.
Il y en a qui en parlent et qui l'ont oublié.
Bah, moi, j'en avais deux sur trois dans les trois de tête, mais j'avais pas donné Quintana. Voilà. Je pensais que Rodriguez allait remporter l'étape. C'est lui qui avait les meilleures qualités pour remporter l'étape, mais comme il a roulé dans toute l'ascension pour aller chercher le podium, évidemment, il était un peu sec pour décrocher cette étape. Tu vas nous récapituler tout ça, Benji?
Oui, Bourgui et Lucho qui avaient joué Quintana. Dommage que ça ne soit pas une course par étape juste pour la journée, comme ça vous auriez gagné, messieurs. Mais
bon, ça va.
Et Christophe, je suis avec Bourgui, on est tous les deux en slip dans le studio.
Ouais. En slip,
ça doit être beau, tiens.
On est magnifique.
D'ailleurs.
Déjà il y a 20 ans Bourgui était pas beau à poil alors...
à poil je t'ai jamais vu et j'ai pas envie de te voir.
On a vu des photos sur le Tour de France, je vous dis pas. Bon bref, on va pas dévoiler toutes les infos du Tour de France. Ce qui est sur le Tour de France reste sur le Tour de France. Alors Benji, le classement général, pas tout à fait final parce qu'il y a une étape encore demain.
Oui, il y a une étape et contrairement au Tour de France, aux coureurs du Tour de France, nous on peut encore attaquer Cyril, on va pas se gêner. Cyril a donc le maillot vert, ça c'est sûr et certain. Christophe, toi tu as le maillot à pois, c'est sûr et certain là aussi.
Ah bah c'est bien ça, voilà, bah, je suis le Quintana.
Je suis content de peu là, Christophe. Hein. Franchement,
on peut pas gagner tout le temps, on peut pas tout gagner non plus. Messieurs, demain donc dernière étape, l'arrivée sur les Champs-Élysées. Moi je dis Cavendish, tiens.
Donc je suis toujours en tête.
À part si je mets 1 million d'euros sur le vainqueur de demain.
Il faut être solvable.
Ouais. Je suis solvable. 1 million d'euros, mais attends, tu rigoles.
Les favoris pour l'étape de demain. Mais s'il vous plaît, on accélère parce que je voudrais qu'on entende Bernard Hinault dans quelques instants. Donc Benji, donne-nous les favoris pour l'étape de demain.
Cavendish, largement favori, 1,75. Derrière, Kittel, 4,60 et Greipel, 7. Peter Sagan à 8 pour essayer de piquer le maillot jaune au Druid. Moi, je vais jouer Gilbert comme ça, un baroud d'honneur.
C'est des noms qui reviennent depuis de très loin, tout ça. Hein. Ça fait un moment qu'on les avait plus entendus.
Ils étaient encore dans le tour.
Ils sont dans le groupe Eto tous les jours.
Ils ont pris une semaine de congé.
Alors, bon, moi, je vais donner Cavendish, évidemment.
Moi, je ne vois pas comment Cavendish va pouvoir perdre sa position de meilleur sprinter du tour. Il n'a gagné que 2 étapes, Kittel 3. S'il n'en gagne pas trois, ça veut dire qu'il est sur le déclin. Donc je vais jouer
Cavendish. Luc,
de toute façon, au point j'en suis. Moi je vais jouer Greipel.
Greipel. Et toi Thierry? Toi tu vas te tenter un coup.
Non,
du Bourgui.
Deux mises hein, comme toujours.
Misez 10 et 9.
Non, pas deux. Pas sur les étapes au sprint, Thierry. Thierry, non. Mais c'est pas possible.
Je prends 1m5 hein, si je veux. Comme ça, je suis sûr de gagner.
Ouais, c'est
bon, je crois qu'on va pas écouter.
Cavendish.
Très bien. Ok, c'est parfait. C'est enregistré, monsieur Benji.
À demain, messieurs.
On se retrouve demain.
À demain.
Le petit jingle, non, il n'y a pas de jingle, il n'y a plus de jingle.
Il a
terminé.
Des moufles, Toto, ce soir.
Ah, Toto, c'est Toto qui est aux manettes, ça ne m'étonne pas. Très bien. L'étape de demain, donc je le disais, c'est une étape de prestige. Demain, on va pas faire la course. Vous regrettez, vous, l'époque, Cyril, où on se bagarrait pour aller décrocher des victoires d'étape ou pourquoi pas jouer le général sur les Champs-Élysées?
Non, mais tu rêves, ça c'est bien fait, ça.
C'est arrivé, bien sûr que c'est arrivé.
Oui,
89, qu'est-ce qui s'est passé en 89?
Oui,
t'étais
89,
pas né, quoi.
Parce que c'était le contre-la-montre.
Mais il y a eu d'autres étapes importantes. Tiens, écoute ce que disait Bernard Hinault. Bernard Hinault, lui, les Champs-Élysées, ça lui donnait envie de sortir de la boîte. On l'écoute, Bernard Hinault, quintuple vainqueur du Tour de France.
Pour le prestige.
C'est pas une idée qui vient. C'est les circonstances de course. Hein. La première fois, il y avait une bagarre pour la 3e et 4e place entre Turo et puis Cuypers. Et dans toutes les ascensions de la vallée de Chevreuse, à chaque fois, ils attaquaient. Et au sommet de l'homme mort, à un moment donné, ils ont eu un petit coup de moins bien. Bon, j'ai pris le rond-point, je me suis retrouvé avec 50 mètres d'avance. Je me suis dit, on va s'amuser. J'ai mis en route. Et à mon grand étonnement, j'ai entendu dire que derrière, il y avait Yop Zoutemelle qui revenait. Donc je ne l'ai pas laissé venir tout de suite, j'ai attendu jusqu'au pavé des gardes, en haut du pavé des gardes, et là après on est parti vers les Champs-Élysées, et sur les champs, là à deux, c'était pas trop difficile de gagner. Ça c'est pour la première fois, et la deuxième fois, donc c'était en 82, bon, j'ai commencé à 1 km de l'arrivée à faire un petit peu jouer avec le peloton, quoi, dedans pour faire la sprint. Puis je me suis fait serrer contre un trottoir, et d'un seul coup je dis, mais oh là, attention, t'as le maillot jaune quand même, fais gaffe. Et il y a Charlie Bérard qui est arrivé, qui dit, mets-toi dans la roue, et à partir du moment où il m'a dit, mets-toi dans la roue, je l'ai suivi. Et il m'a lâché à 400 mètres, et à 400 mètres, bon, moi, j'ai mis tout ce que j'avais de puissance pour aller chercher. chercher. Et Van Der Poel qui pensait avoir gagné, et comme sur la ligne, je l'ai passé.
Mais voilà, voilà
c'est le jeu de la compétition. Et quand on aime la compétition, on se pose pas trop de questions, on y va. Mais aujourd'hui, avec les calculs qui sont faits, je pense pas qu'il s'amuserait à faire ça.
Voilà, le blaireau, Cyril, que tu as bien connu, tu étais son directeur sportif. Il n'y avait pas de dernière étape, il n'y avait pas de prestige pour lui, il fallait gagner. Un gagnant, pas gagnant.
Il a gagné deux fois la dernière étape. Ouais. Et une année, il a gagné d'ailleurs les deux dernières étapes du Tour. Au sprint massif, il en a évoqué une, et une autre fois où ils arrivent donc avec Zoutemelk et ils battent Zoutemelk au sprint. Donc de toute façon, quand le blaireau il était quand il voltigeait, tu pouvais pas l'arranger ni dans les bosses ni dans le seul endroit sprint où il était prenable à la limite, c'était les descentes. Mais t'arrivais au sprint, t'étais battu, ça c'est
donc clair. Demain Quintana donc, demain, peut gagner.
Froome peut gagner. Non, Thierry.
Quintana.
Mais Quintana, ouais, là il y a la montée des Champs-Élysées quand même. Faut les tourner derrière le
l'arc. C'est un col à chaque fois.
Ouais, col, ouais.
Colombia.
Bon, tu regrettes cette époque, Bourgui, toi, par exemple? T'aimerais bien que la dernière étape soit une vraie étape et pas seulement un défilé jusqu'aux Champs-Elysées?
Oh, c'est pas un défilé, franchement.
Ah, si, c'est un défilé.
Et je peux te dire que je te mets sur le vélo, tu vas pleurer, mais c'est vrai que c'est vrai qu'il y a pas d'attaque pour.
Non, attends, le premier coureur qui va attaquer sur la première bosse, et il y a tout le monde qui va aller le chercher et qui va le siffler.
Oui, d'accord. C'est-à-dire mais
que
imaginons
les coureurs ont décidé que cette étape-là n'en était pas une.
Cyril, imaginons que entre le deuxième et le premier, il y ait une seconde ou deux secondes. Tu crois que ça allait se passer tranquillement, là?
Ouais.
Mais là, tout est fait. Donc, tout est fait.
À 5 minutes, c'est vrai qu'il
faudrait... Moi, j'aimais bien les champs sur deux tours. Après, j'en avais marre. Les relances, les pavés et tout, j'en ai ras le bol.
Les pavés, pourtant, t'aimais bien.
Tu préférais aller faire la fête après, toi. Non, on a bien compris.
Non, Lucho, pendant sa carrière, il faisait pas la fête.
Non. C'est après.
Mais il s'est rattrapé
depuis.
Il s'est rattrapé.
Merci, messieurs. Merci. On va se retrouver évidemment demain dans les grandes gueules avec Thierry, avec Lucho et avec Cyril, et puis dès 17h hein, demain à 14 à 17h vous écouterez les meilleurs moments de ce Tour de France, et dès 17h nous prendrons l'antenne pour le début de l'étape à 17h45 qui s'achèvera vers 21h45. Demain il y aura la patrouille de France, il y aura un feu d'artifice sur l'Arc de Triomphe, il y aura tous les grands champions, tous les maillots jaunes tous les gens qui ont porté le maillot jaune sur les champs. D'ailleurs vous êtes invités tous les deux, Lucho et
Cyril. Oui, mais nous on a un métier,
donc vous irez pas dans la parade. Allez, on se retrouve demain dans quelques instants. Vous avez rendez-vous avec Virginie Fulpin, puisque Lucho et Thierry restent là encore une demi-heure. Bonne soirée, à demain.
PMU.fr, paris sportif, paris hippique, poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.